Chapitre 18. Comme dirait Watson, j'aimerais connaître vos méthodes, Miss Marple, dit Sir Henry Clithering. Et moi, dit le superintendant Harper, je serais curieux de savoir ce qui vous a mis la puce à l'oreille.
Vous avez encore réussi, tonnerre de Zeus, s'écria le colonel Melchett. J'exige que vous nous racontiez tout depuis le début.
Miss Marple lissa la soie puce de sa plus belle robe du soir. Elle rougit, sourit et prit un air timide à souhait. « Je crains que vous ne jugiez que mes « méthodes », comme Sir Henry veut bien les appeler, trahissent un déplorable amateurisme. Le fait est, voyez-vous, que la plupart des gens, y compris les policiers, sont infiniment trop crédules face à la malignité humaine. Ils gobent tout ce qu'on leur dit. Moi, jamais. Peut-être faut-il y voir chez moi une manie. Il me faut toujours des preuves. C'est une attitude scientifique, commenta Sir Henry. Dans l'affaire présente, poursuivit Miss Marple, on a d'emblée considéré certaines choses comme allant de soi, au lieu de s'en tenir aux faits. Les faits, tels que je les ai relevés, était que la victime était très jeune, qu'elle se rongeait les ongles et qu'elle avait les dents un peu en avant, comme souvent chez les fillettes lorsqu'on ne les redresse pas assez tôt. Les enfants ne sont d'ailleurs pas souvent raisonnables avec leurs appareils, ils les retirent dès que les adultes ont le dos tourné. Mais je m'égare. Où en étais-je? Ah, oui, j'examinais le cadavre de cette fille. J'étais triste, parce qu'il est toujours navrant de voir une vie ainsi fauchée en pleine jeunesse. Et je me disais que l'assassin, quel qu'il soit, devait être une bien mauvaise personne. Qu'on ait retrouvé ce cadavre dans la bibliothèque du colonel Bantry ne pouvait évidemment que dérouter. Ça faisait même trop roman policier pour être vrai. En fait, le scénario ne collait pas. Il n'avait pas été prévu ainsi. Et c'est cela, voyez-vous, qui nous a tellement embrouillés. La véritable idée de départ était de déposer le cadavre chez ce pauvre petit Basil Blake, bien meilleur suspect et de loin. Mais le fait que ce dernier se soit amusé à le transporter dans la bibliothèque du colonel Bantry a considérablement retardé le cours des événements, sans doute au grand dam du véritable meurtrier. Car à l'origine, c'est sur M. Blake que devaient se porter les soupçons. On aurait enquêté à Deynmouth, découvert qu'il connaissait la morte, découvert ensuite qu'il s'était lié à une autre fille, supposé que Rubikin était venu lui faire du chantage ou une scène quelconque et qu'il l'avait étranglé dans un accès de colère. Un crime tout ce qu'il y a de banal, de sordide, un crime de fêtard, quoi. Seulement voilà. Les choses ont mal tourné. Et l'attention des enquêteurs s'est portée beaucoup trop vite sur la famille Jefferson, au grand dam, encore une fois, d'une certaine personne. Je vous l'ai dit, je suis très méfiante de nature. Mon neveu Raymond me répète, pour rire bien entendu et en toute affection, que mon cerveau est une poubelle, un cloaque. C'est d'après lui typique des victoriens. Tout ce que je peux dire, c'est que les Victoriens en savaient long sur la nature humaine. Dotés donc de cet esprit sceptique, sinon sceptique S.E., je me suis penché sur l'aspect financier de l'affaire. Deux personnes allaient tirer bénéfice de la mort de cette fille. On ne pouvait sortir de là. 50 000 livres, c'est une somme. Surtout quand vous connaissez des difficultés pécuniaires, ce qui était le cas des deux personnes en question. Certes, ils paraissaient malaisés de les soupçonner tant ils se montraient charmants l'un et l'autre, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? Madame Jefferson, par exemple, tout le monde l'aimait beaucoup. Et pourtant, il apparaît évident qu'elle avait commencé cet été à ruer dans les brancards, qu'elle était lasse de la vie qu'elle menait, de sa complète dépendance vis-à-vis de son beau-père. Elle savait, parce que le médecin le lui avait dit, qu'il n'en avait plus pour bien longtemps. Et alors là, pour dire les choses crûment, tout était pour le mieux. Ou l'aurait été, sans l'entrée en scène de Ruby Keene. Madame Jefferson vouait à son fils une adoration sans bornes, et certaines femmes ont la curieuse idée que les crimes commis au nom de leur rejeton se justifient moralement. J'ai vu un ou deux cas de ce genre au village. « Mais ce que j'ai fait, c'était pour Daisy que je l'ai fait, miss !» disent-elles comme si cela suffisait à justifier une conduite éminemment répréhensible. Plutôt laxiste comme tournure d'esprit, non ? Monsieur Marc Gaskell, cela va de soi, était un bien meilleur partant, si je puis me permettre ce jargon hippique. Il était joueur et ne me semblait pas de très haute moralité. Seulement, pour diverses raisons, il m'apparaissait qu'une femme était étroitement impliquée dans ce crime. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne le mobile, l'argent me semblait particulièrement vraisemblable. Il était par conséquent fort ennuyeux de constater que ces deux personnes avaient un alibi pour l'heure où Ruby Keene, d'après les rapports médicaux, avait trouvé la mort. Peu après, cependant, survint la découverte de la voiture incendiée renfermant le corps de Pamela Reeves. La vérité me sauta alors aux yeux. Les alibis ne valaient désormais plus rien. Je détenais à présent les deux moitiés de l'affaire, aussi convaincantes l'une que l'autre à ceci près qu'elles ne coïncidaient pas. Il devait y avoir entre elles un lien étroit, mais je ne parvenais pas à le trouver. La personne que je savais impliquée dans le crime n'avait pas de mobile. C'était vraiment stupide de ma part, admit Miss Marple non sans mélancolie. Dire que sans Dinali, je n'y aurais pas pensé alors que c'était la chose la plus évidente du monde. État civil, mariage. Il ne s'agissait plus seulement de Monsieur Gaskell ou de Madame Jefferson. La notion de mariage ouvrait d'autres possibilités. Que l'un de ces deux-là ait convolé, ou même seulement en caresse l'idée, et le conjoint réel ou putatif devenait suspect. Raymond, par exemple, pouvait croire en ses chances d'épouser une femme riche. Il gratifiait sans relâche Madame Jefferson de ses assiduités, et c'est son charme, je crois, qui l'avait éveillée de son long veuvage. Jusque-là, elle s'était contentée de jouer les filles de Monsieur Jefferson. Comme Ruth et Noémie, à ceci près, encore une fois, que Noémie, si vous vous souvenez, s'était donné toutes les peines du monde pour trouver un mari à Ruth. Outre Raymond, il y avait Monsieur McLean. Elle avait beaucoup d'affection pour lui, et il semblait tout à fait possible qu'elle finisse par l'épouser. En voilà un qui n'était pas riche et qui, en plus, la nuit du crime, se trouvait à proximité de Danemouth. Ainsi, voyez-vous, expliqua Miss Marple, j'avais l'embarras du choix. Seulement, en fait, au fond de moi, je savais. Ses ongles rongés, ça voulait dire quelque chose, et il n'y avait pas à sortir de là. Ses ongles ? S'étonna Sir Henry. Elle s'en était cassé un et avait coupé les autres. Erreur, rectifia Miss Marple. Rongée ou coupera, les ongles n'ont pas du tout le même aspect. Tous les gens qui s'occupent d'enfants vous le diront. Moi-même, je ne cesse de répéter à mes petites élèves combien il est laid de les ronger. Or, cela était révélateur. Et ne pouvait mener qu'à une conclusion. Le cadavre de la bibliothèque du colonel Bantry n'était pas, absolument pas, celui de Ruby Keene. Et cela nous mène tout droit à l'unique intéressé, Josie. C'est Josie qui a identifié le corps. Elle savait, elle devait savoir que ce n'était pas celui de Ruby. Pourtant, elle a dit que si. Elle était stupéfaite, abasourdie de découvrir le corps là où il se trouvait. Elle a même pratiquement trahi sa surprise. Pourquoi ? parce qu'elle savait, mieux que quiconque, où il aurait dû se trouver. Dans le cottage de Basil Blake. Qui a attiré notre attention sur Basil? Josie, en disant à Raymond que Ruby pouvait se trouver avec ce type qui fait des films. Et avant cela, en glissant une photo de lui dans le sac de Ruby. Qui nourrissait une telle rancœur à l'encontre de la victime qu'elle ne fut même pas capable de la masquer devant le corps? Josie. Josie la rusée. Josie la pragmatique, toujours prête à sortir ses griffes et qui ne songeait qu'à l'argent. Voilà ce que je voulais dire en parlant de la crédulité à laquelle tout un chacun se laisse trop vite aller. Personne n'a songé à mettre en doute l'affirmation de Josie, selon laquelle il s'agissait bien du corps de Rubikine. Tout simplement parce qu'on ne lui voyait à ce moment-là aucune raison de mentir. Le mobile, c'est là qu'a toujours résidé la difficulté. Josie était manifestement impliquée, mais la mort de Ruby semblait plutôt, en fait, contraire à ses intérêts. Ce n'est que lorsque Dina m'a parlé d'état civil que j'ai aussitôt vu le lien. Le mariage! Imaginons Josie et Marc Gaskell mariés. Tout deviendrait limpide. Or, nous le savons maintenant. Il l'était depuis un an. Il voulait garder le secret jusqu'à la mort de Monsieur Jefferson. J'ai pris un vif intérêt, voyez-vous, à retracer le cours des événements, à voir exactement comment le plan avait été élaboré. Un plan compliqué et simple à la fois. Tout d'abord, le choix de cette malheureuse Pamela Reeves, puis l'approche par le biais du cinéma. Tourner un bout d'essai. Bien sûr que cette infortunée gamine ne pouvait résister, étant donné la manière convaincante dont Marc Gaskell lui a fait miroiter la chose. Elle arrive à l'hôtel, il l'attend, la fait entrer par la porte latérale, la présente à Josie, une de leurs meilleures maquilleuses. Pauvre gosse quand j'y pense, j'en suis malade. Je ne peux m'empêcher de l'imaginer dans la salle de bain de Josie pendant que celle-ci lui décolore les cheveux, lui fait le visage, lui vernit les ongles, les mains et les orteils. C'est au cours de cette opération qu'on lui administre la drogue, dans un soda glacé probablement. Elle perd connaissance. Je présume qu'il la met alors dans l'une des chambres vides d'en face. On n'y fait le ménage qu'une fois par semaine, souvenez-vous. Après le dîner, Marc Gaskell prend sa voiture pour faire, soi-disant, un tour jusqu'au front de mer. C'est à ce moment-là qu'il transporte le corps de Pamela, revêtu d'une des vieilles robes de Ruby, jusqu'au cottage et le dispose sur le tapis de la cheminée. Elle était toujours inconsciente, mais pas morte. Il l'étrangle avec la ceinture de la robe. Pas très jolie, ça, non. Et je prie Dieu qu'elle ne se soit rendue compte de rien. La seule chose qui me réconforte, voyez-vous, c'est la certitude qu'il sera pendu. Cela a dû se passer juste après 22 heures. Il rentre alors en poussant son moteur à fond et retrouve les autres dans le salon où Rubikine, toujours vivante, exécute son numéro de danse avec Raymond. J'imagine que Josie avait donné à l'avance des instructions à sa cousine. Celle-ci lui obéissait toujours. Ruby devait se changer, aller dans la chambre de Josie et attendre. Elle aussi avait été droguée, probablement par le café, après le dîner. Elle bâillait, souvenez-vous, en parlant au jeune Bartlett. Plus tard, Josie est montée la chercher, mais personne, hormis elle-même, n'est entré dans la chambre de Josie. C'est sans doute à ce moment-là qu'elle a achevé la petite, par injection peut-être, ou un coup sur la nuque. Elle redescend, danse avec Raymond, fait mine de se demander, avec les Jefferson, où se trouve Ruby, puis va se coucher. Aux premières heures de l'aube, elle habille sa cousine des vêtements de Pamela, descend le cadavre par le petit escalier, c'est une femme très robuste, s'empare de la minoane de George Bartlett, parcourt les 3 kilomètres qui la séparent de la carrière, arrose la voiture d'essence et y met le feu. Elle rentre alors à pied à l'hôtel, prenant sans doute bien soin de s'y montrer vers 8 ou 9 heures, comme si c'était l'angoisse du sort de Ruby qui l'avait tiré du lit.
« Un scénario compliqué », commenta le colonel Melchett.
« Pas plus qu'un pas de danse », répondit Miss Marple.
« Peut-être pas, non. »
Elle avait pensé à tout, même à la différence de longueur des ongles. Elle a fait en sorte d'en casser un à Ruby avec son châle, subterfuge qui lui permettait de prétendre que Ruby se les était coupera.
Effectivement, elle n'avait rien laissé au hasard, dit Harper. Et le seul indice en votre possession, Miss Marple, c'était les ongles rongés d'une écolière.
Pas seulement, répondit-elle. Les gens parlent toujours trop. C'est ce qu'a fait Mark Gaskell. Évoquant Ruby, il a dit qu'elle avait les dents qui lui rentraient jusque dans la gorge. Or, le cadavre dans la bibliothèque du colonel Bantry les avait qui ressortaient.
Et ce final de Grand Guignol, c'était une idée à vous, Miss Marple ?
Demanda Conway Jefferson sur un ton plutôt maussade. À vrai dire, oui, confessa-t-elle. C'était quand même mieux d'avoir une certitude, vous ne croyez pas ?
Pour une certitude, ça a été une certitude, grogna Conway.
« Voyez-vous, apprendre que vous vous apprêtiez à modifier votre testament a obligé Marc et Josie à faire quelque chose. Ils avaient déjà commis 2 meurtres pour de l'argent, alors pourquoi pas un 3e ? Marc, bien sûr, devait rester blanc comme neige. Aussi s'est-il constitué un alibi en allant au restaurant et dans une boîte de nuit à Londres avec des amis. C'est Josie qui devait faire le travail. » Comme il tenait toujours à ce que la mort de Ruby soit portée au compte de Blake, il fallait que celle de Monsieur Jefferson semble résulter d'une crise cardiaque. « Il y avait de la digitaline dans la seringue, » me dit le superintendant. Étant donné les circonstances, n'importe quel médecin aurait néanmoins conclu à la mort naturelle. Josie avait en effet décelé une des boules de pierre du balcon et l'aurait fait tomber une fois son forfait accompli. On aurait attribué le décès au choc causé par ce bruit.
La ruse de cette garce !
Sœur Henry intervint.
Ainsi, la 3e mort dont vous parliez devait être celle de Conway Jefferson ?
Miss Marple secoua la tête.
Oh non !
Celle de Basil Blake. Il l'aurait fait pendre s'ils avaient pu.
Ou boucler à Bronmour. Dit Sir Henry.
Sans vouloir l'admettre, j'ai toujours su que Rosamund avait épousé un sale type, grogna Conway. Dire qu'elle l'aimait, qu'elle était amoureuse d'un assassin. Mais ils se balanceront au bout d'une corde, lui et cette femme. Je suis content qu'ils se soient effondrés et qu'ils aient craché le morceau.
C'est elle qui menait la barque, précisa Miss Marple. Elle qui avait tout manigancé depuis le début. L'ironie du destin, c'est que c'est elle aussi qui a fait venir la fille de Londres, sans imaginer un seul instant que Ruby allait capter l'affection de Monsieur Jefferson et faire capoter ses projets.
« Pauvre gosse, » dit Jefferson, « pauvre petite Ruby. »
Adélaïde Jefferson et Hugo MacLean firent leur entrée. Adélaïde paraissait presque belle ce soir-là. Elle s'approcha de Conway et lui posa une main sur l'épaule.
« Il faut que je vous annonce quelque chose, Jeff, » murmura-t-elle d'une voix entrecoupée. « Je vais épouser Hugo. »
Il leva les yeux et la regarda un instant sans un mot.
« Pas trop tôt !» lâcha-t-il enfin sur un ton bourru. « Félicitations à tous les deux. » « Au fait, Addy. » Je vais rédiger un nouveau testament demain.
Oui, je sais,
fit-elle avec un hochement de tête.
Non, vous ne savez pas. Je vous lègue 10 000 livres. Tout le reste de ce que je possède ira à Peter à ma mort. Qu'en dites-vous, mon petit ?
Oh, Jeff !
Sa voix s'étrangla.
Vous êtes formidable !
C'est un brave gosse. J'aimerais le voir le plus possible pendant le temps qui me reste.
Sache, je vous le promets.
Il a vraiment des talents de détective, ce petit Peter, fit Conway songeur. Il a non seulement récupéré un ongle de la victime, d'une des deux victimes en tout cas, mais il a aussi eu la chance d'obtenir du même coup un fil du châle de Josie qui y était resté accroché. Ce qui fait qu'il a un souvenir de la meurtrière par-dessus le marché. Il est fier comme pas deux.
Hugo et Adélaïde passèrent devant la salle de danse. Raymond Lévy et s'approcha.
« À vous aussi, il faut que j'annonce la nouvelle, » dit la jeune femme d'un ton un peu précipité. « Nous allons nous marier. »
Le visage de Raymond s'éclaira d'un sourire parfait, un sourire courageux et mélancolique. Ignorant Hugo, il plongea les yeux dans ceux de la jeune femme.
« Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. »
Ils poursuivirent leur chemin. Raymond les regarda s'éloigner.
« Elle était chouette, cette femme, »
se dit-il à lui-même.
« Vraiment très chouette.
Et elle aurait été bourrée d'argent. »
« Dire que je me suis donné tant de mal pour monter ce bateau des stars du Devonshire. »«
Bah, c'est la faute à pas de chance. »« Danse, danse, mon beau petit monsieur. »
Et il retourna sur la piste.